Une session philosophique ne se termine pas par des conclusions. Nous sommes dans une recherche. Je vous ai indiqué une recherche que je crois être importante. Une recherche dans un réalisme. Je sais très bien que ça demanderait la philosophie n'est pas la philosophie. chemin avec vous sur la position du philosophe à l'égard de Dieu. Je dis, mais oui, parfaitement. Ah, vous n'obligez pas à concroire. Je dis, oh, pas du tout, je dis pas du tout. Je verrai si vous êtes intelligente. C'est la seule chose qui m'intéresse au point de vue philosophie. Êtes-vous intelligente? Ou avez-vous des a priori affectifs? Si vous avez des a priori affectifs, j'essaierai de les détruire. Et vous montrer que c'est pas digne d'un philosophe d'avoir des a priori affectifs. Si noble qu'il soit, le philosophe doit pouvoir toujours communiquer avec les autres hommes par l'expérience. C'est ça la vraie philosophie, c'est une philosophie de l'expérience. L'artiste aussi est l'expérience. Le savant aussi c'est l'expérience. Le psychologue aussi c'est l'expérience. Mais ce sont des expériences différentes. Et ça qui est intéressant à voir. Alors elles ont passé leur examen avec beaucoup d'intelligence. J'étais très content. Au moment de la licence, elles étaient libres de choisir leur sujet, leur matière. Elles ont choisi cette matière. Elles sont venues toutes joyeuses de dire, nous choisissons cette matière avec vous. Je dis, très bien. Parce que c'est le sujet qui nous a le plus intéressé. Alors, je dis, vous êtes intelligente. C'est en effet le sujet le plus intéressant au point de vue philosophique. Est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? En réalité, c'est la grande question. Pour tout homme intelligent, c'est la grande question. Puisque toute notre vie est changée, si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Et là, on voit le réalisme de la philosophie. Vivre d'une idéologie athée, si cette idéologie athée repose uniquement sur des a priori affectifs, c'est très gênant. Pour un philosophe, c'est très gênant. Alors, au point de vue de la licence, c'était très bien. Je savais qui j'avais affaire. Alors, j'aurais demandé des positions. Elles ont bien discuté, intelligemment. C'était ce que je leur demandais. Puis après l'examen, elles m'ont dit, maintenant, est-ce qu'on peut vous parler, non plus en tant qu'examinateur, mais en tant qu'un homme, que nous connaissons par vos cours, que... Et puis elles ont ajouté des notes. Très bien, on voudrait parler avec vous. Alors elles m'ont fait cet aveu, que j'ai beaucoup aimé du reste. Nous étions arrivés à Fribourg, parce qu'on nous avait dit que, quand même, il y avait une philosophie réaliste. Elles étaient persuadées que le réalisme dit que Dieu n'existe pas, parce que Dieu n'est pas la réalité qu'on touche. Le réalisme, c'est le matérialisme. Je dis oui, oui, dans certaines philosophies, le réalisme, c'est le matérialisme, c'est vrai, vous avez raison de dire ça. Mais il y a un autre réalisme qui va beaucoup plus loin, qui est le réalisme de l'esprit. Là, je dis oui, on a compris ça. On retourne en Allemagne, on retrouvera notre groupe d'athées. Et on leur dira, vous croyez que vous êtes athées, mais vous n'êtes pas du tout. Parce que vous ne savez même pas justifier votre athéisme. Parce que nous retournons là-bas en voyant que ce n'est pas si facile que ça de se dire athée au plan philosophique. Je dis, oui, je comprends. Au plan philosophique, si on raisonne, si on essaie de comprendre ce que c'est que notre vie, ce n'est pas facile du tout d'affirmer une idéologie qui aboutit à l'athéisme. Parce que l'esprit, si on découvre l'esprit, alors le philosophe, quand même, c'est celui qui doit éduquer l'esprit. C'est celui qui doit éduquer l'amour d'amitié et l'esprit pour montrer la grandeur de l'homme, pour montrer la dignité de l'homme, pour montrer ce qu'est la personne humaine. Alors, on se quittait du reste comme ça, c'était très sympathique. On dira à tous nos collègues qui se disent dans l'idéologie athée que ce n'est pas commode du tout. Et on continuera à chercher la vérité. Parce qu'en effet, je crois que le philosophe, c'est celui qui cherche la vérité. Alors, j'étais très heureux. Et le démon n'a pas accepté que le chef-d'œuvre de Dieu, au point de vue créateur, ce soit l'homme et la femme, ce soit les benjamins, les petits derniers. Le démon n'a pas accepté Lucifer, l'ange lumineux, n'a pas accepté d'avoir comme frère et sœur des peaux rouges, des peaux blanches, des peaux noires. Pas accepté ça. Pas accepté ça. Impossible. Impossible. D'avoir comme frère et sœur des pauvres êtres pas très intelligents. Et de voir que Dieu les crée pour leur communiquer quelque chose que l'ange n'a pas. Que Dieu peut aller plus loin dans la communication d'amour à l'égard de ces pauvres petits derniers. De ces benjamins. Il leur communique une capacité d'être source de vie. Il leur communique une capacité de s'aimer d'un amour d'amitié naturel. C'est quand même quelque chose de très grand, ça. Je crois que ce sont les deux aspects. Et j'en ajoute un troisième. Les anges ne sont pas des artistes. dire exactement ce qu'il est, d'un daimon, une espèce d'esprit intermédiaire entre l'homme et Dieu. Pourquoi n'est-il pas possible d'affirmer l'existence d'une âme spirituelle chez un œuf humain unicellulaire sur le plan philosophique? Je n'ai pas dit ça, hein. J'ai dit que l'homme ne pouvait pas l'affirmer. Mais c'est bien fait d'écrire ça, parce que vous y allez en part avec des choses que je n'ai pas dites. Hein. Je n'ai pas dit ça du tout. J'ai dit que le philosophe ne pouvait pas préciser à quel moment l'âme était créée. Mais s'il pouvait chercher des convenances. pense avec Descartes. Une perspective réaliste, une perspective idéologique. L'idéologie naît avec Descartes. Descartes est un idéologue. Pourquoi ? Parce que pour lui, ce qui est premier, c'est l'idée. C'est les idées innées. C'est ce qui est premier. Donc c'est le premier des idéologues. Du reste, on peut dire que Hegel le reconnaît. Il dit que Descartes, c'est le point de départ d'une philosophie qui est sa philosophie. Donc, qui est une idéologie parfaite et parfaitement consciente. Vous voyez, pour Descartes, la liberté est antérieure à l'amour. Il faut être libre pour aimer. L'amour est du reste avant tout un amour passionnel, puisque l'habit spirituel est avant tout source de réalisation. C'est l'artiste qu'on voit le mieux ce qu'est la liberté. On a tous eu l'expérience de grands artistes et ça nous a toujours beaucoup frappé de voir combien un grand artiste est libre. Et je me rappelle, on peut discuter, mais c'était une conférence à Fribourg où Claudel venait de temps en temps parce qu'il était grand ami. Liberté totale. Ce qui est très faux, hein. C'est un manque de lucidité. C'est évident, il a subi des influences. Et beaucoup plus qu'il ne pense, que plus on refuse d'avoir subi des influences, plus les influences sont grandes. Ordinairement, c'est comme ça. Tandis que vous acceptez d'avoir subi des influences, il n'y a rien de mal. Au contraire, c'est même bon. D'avoir un père, un grand-père, un oncle, une tante, un parrain, une marraine. Le tout, c'est que ces influences, on les ait vraiment assimilées et qu'elles se deviennent quelque chose de nous, qu'on ne répète pas. Donc, pour Descartes, la liberté est avant l'amour. La liberté est quelque chose de capital chez Descartes. Par la liberté que je suis le plus proche de Dieu. C'est net, c'est la liberté. La liberté de l'homme et la liberté de Dieu sont, j'allais dire, selon leur nature, elles sont les mêmes. Mais il y en a une infinie et l'autre qui n'est pas finie, et l'autre qui est finie, qui est limitée. Mais c'est la liberté qui est le lieu de rencontre le plus grand entre l'homme et Dieu. accueillir comme ça un rayonnement particulier et on subit l'influence. Donc le premier amour est au-dessus de la liberté. Et cet amour, si je l'accepte, si je l'accepte librement, va me donner et va être source pour moi d'une très grande liberté. Parce que c'est dans la mesure où je suis finalisé et que ma fin, ce que je recherche, le bien que je recherche, est grand, est digne, est élevé. C'est dans cette même mesure que je domine tous les autres biens matériels, tous les autres biens limités. Je suis libre à leur égard. Plus j'aime un bien, une personne humaine, qui a quelque chose d'absolu, plus je suis libre à l'égard de tous les autres biens. À l'égard de ce bien, j'accepte librement de me laisser prendre. Et donc ce bien qui au point de départ est nécessaire, devient libre. Ou bien cet amour qui au point de départ est nécessaire, progressivement devient libre et je choisis un choix amical et libre. Je t'ai choisi au milieu d'une quantité d'autres personnes que j'aurais pu choisir. On choisit une personne, on choisit deux amis, on les choisit librement. Et vous voyez, le premier amour s'est imposé. Ça, je crois que c'est capital à comprendre. L'ordre qui existe entre la liberté et l'amour. Est-ce que l'amour est avant la liberté? Est-ce que la liberté est l'effet de l'amour? Provient de l'amour? La liberté, c'est ce dont j'ai le plus de conscience. C'est pour ça que si j'ai une philosophie d'accord, liberté d'exercice est évidemment la liberté la plus radicale et la plus fondamentale. C'est elle qui me fait découvrir le plus profondément mon autonomie. Comment il y a cette chose très particulière que dans tous les choix libres que je fais pour choisir un ami, il y a quelque chose qui est irréductible par rapport à l'analyse que je peux faire au point de vue intellectuel. En définitive, c'est moi qui choisis. C'est là où nous découvrons le mieux notre moi capable de choisir et capable de choisir un ami. Si on vous demande, mais est-ce que tu es sûr ? Laisse-moi tranquille. J'ai le droit de choisir. Donc, c'est impérativement. On n'aime pas du tout d'être chatouillé dans notre liberté. Ah, tu dis, mais qu'est-ce que tu as dit ? Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Mais pas bah, quoi ? Je dis de poser cet acte de libre. C'est moi qui le pose. J'en ai parfaitement conscience. C'est très curieux. Hein. Alors, celui qui veut analyser, c'est dire pourquoi. Tu n'arriveras jamais, c'est inscrit. Et c'est vrai, c'est inscrit. C'est inscrit très intérieur. Alors là, vous voyez, comme c'est intéressant au point de vue philosophique d'étudier ce que c'est que le secret, d'étudier ce que c'est que l'acte libre, dans ce qu'il a de plus profond. Parce que il implique l'amour, et il implique l'esprit. Il n'y a pas de liberté sans l'intelligence. Il n'y a pas de liberté sans le jour où vous ne pouvez plus, petit homme, il y a quelque avion qui se